Voilà, bonjour, c'est Gracieuse de Toulon. Je voulais dire que j'ai été bouleversée par les témoignages des personnes vivant volontairement ou non en camping. Personnellement, j'avais l'intention à la retraite, dans une espèce de désir rousseauiste d'un retour à la nature, à la mer et au soleil, d'acheter un mobil-home au bord de mer. Ben maintenant, c'est décidé, hein. À la retraite, je reste en appartement, en ville, dans le bruit et la fureur. Au revoir.
Voilà, bah écoutez, moi je suis rentrée le 6 janvier de l'île de la Réunion, à midi et demi j'allais très bien, à minuit et demi j'étais terrassée par ce que l'on appelle le chikungunya. Je me sens un peu moins orpheline parce que maintenant on en parle un peu partout, mais il y a un mois personne ne parlait du chikungunya. Je me suis retrouvée terrassée dans mon lit, paralysée par la douleur, toutes les articulations me faisant mal. Le médecin qui est venu ne savait pas quoi dire, de toute façon revenant de la Réunion je savais qu'il n'y avait pas de traitement efficace. Le laboratoire ne savait pas plus. Le service des maladies tropicales de Montpellier se posait les mêmes questions que moi, mais n'avait pas les mêmes réponses. J'ai eu de l'érythème, c'est-à-dire des plaques rouges partout, sur tout le corps. J'ai eu la bouche complètement douloureuse. Je ne pouvais plus manger, j'avais beaucoup de fièvre. Les douleurs articulaires m'empêchaient même d'aller faire pipi. J'ai mis à contribution mes filles qui ont dû me porter quasiment pendant 3 semaines. Là, ça fait donc un peu plus que 3 semaines. Depuis une semaine, je me lève. J'ai toujours très très mal. J'ai toujours mes articulations qui sont toujours très douloureuses. Mais bon, je peux marcher. Je suis chikungunyée, comme on dit. C'est-à-dire que je marche penchée. On dirait une petite vieille. J'ai 50 ans. Voilà, c'était pour dire que ben, la grippe aviaire, on s'en moque. Elle n'est pas chez nous. Le chikungunya, ça fait des mois et des mois qu'on en parle à la Réunion. Et comme d'habitude, ben, on a l'impression que nos hommes politiques se réveillent toujours un peu tard. Ça fait un an que les gens souffrent du chikungunya à La Réunion. Et en décembre, quand on y était, on parlait toujours de 5600 cas, alors que tout le monde, les infirmières, les médecins, les pharmaciens, savaient qu'il y avait beaucoup plus d'autres cas. Je suis moi-même infirmière, donc j'ai rencontré beaucoup de collègues. Et nous avons réussi, nous, à discuter de chiffres de 30 à 40 000 personnes. C'était au mois de décembre, voilà.
Bonjour, c'est un message donc de la part de Jean-Hervé Guilcher, journaliste à France 3 Ouest, à Rennes. Je vous appelle parce qu'on connaît désormais la politique que veut mettre en œuvre Patrick de Carolis à France Télévisions. Il avait parlé effectivement de patriotisme de groupe. On sait maintenant ce que ça veut dire. Ça veut dire pas concurrence de France 3 contre France 2 et en gros pas de concurrence des infos régionales contre les autres programmes du groupe. Et ça va se mettre en œuvre dès le 27 février puisque les éditions régionales d'information de 12h55 à 13h25 vont être remplacés par un jeu national, une sorte de tête et des jambes qui s'appellera Drôle de couple. Voilà où on va, et aujourd'hui ça veut dire pour nous dans l'Ouest, ça veut dire 2h30 d'information en moins pour faire du divertissement national. Alors c'est peut-être ça, l'avenir de la télévision publique régionale. En tout cas nous on se bat pour la défendre et on a créé un site internet avec une pétition à signer en ligne. C'est http://blabla-sur-la-3, tout collé avec le chiffre, .free.fr. Merci de nous soutenir, au revoir.
Voilà l'histoire en deux mots. En septembre 2001, Toyota fermait son magasin national de pièces détachées et licenciait dans la foulée 45 salariés avec un plan social qui devait nous permettre d'attendre des jours meilleurs et retrouver peut-être un emploi. Eh bien, 4 ans après, sur 45 salariés licenciés, seules 18 personnes ont retrouvé un emploi, c'est-à-dire nous avons voulu dénoncer devant les prud'hommes ce plan social qui n'aurait jamais dû exister. Eh bien, cet après-midi, le tribunal des prud'hommes de Cherbourg vient de condamner le deuxième constructeur mondial automobile à verser des nouvelles indemnités aux victimes et rembourser les allocations aux acédiques. Bien sûr, nous n'avons pas encore gagné la guerre, mais cette victoire nous redonne un peu de fierté et de l'espoir. Et cerise sur le gâteau, les défenseurs de Toyota étaient des avocats du cabinet Sarkozy. C'est encore meilleur. Daniel, je te donne rendez-vous pour la suite de l'affaire dans quelques semaines. Salut, continuez, nous avons besoin de vous. C'était Denis de Cherbourg.
Un peu de fierté, un peu d'espoir. On ne perd pas toujours. La lutte sociale, c'est pas toujours le râteau. Et puis voilà que des journalistes d'FR3, service public, osent publiquement débattre de leur métier. C'est vraiment une très bonne journée. Un autre journalisme est possible. On ne perd pas toujours. On va le voir aujourd'hui avec le sujet du jour. Il y a 5 ans, avec un photographe qui s'appelle Mathieu Pernaud, qui venait de publier un excellent bouquin sur un camp de bohémiens près d'Arles, à Salier exactement. On a fait un reportage là-bas avec Benoît Califano, et cet excellent photographe nous a montré de rien. Voilà, il n'avait rien à nous montrer, parce que c'est un endroit où les choses intéressantes qui nous intéressaient ont disparu. Il s'agit d'un camp de bohémiens, comme on dit, de gitans, qui avait été installé là pendant la Deuxième Guerre mondiale, où nombreux furent les gitans qui, de 42 à 44, y sont passés. Et puis, par la suite, oubli, mépris, effacement. Et il y a eu ce travail, le travail de ce photographe. Les mémoires ont remonté à la surface. Et aujourd'hui, à Arles, la municipalité d'Arles a inauguré un mémorial à la mémoire de ceux qui sont passés dans ce camp, et à la mémoire de ce camp qui a une histoire tout à fait singulière. Donc on a voulu revenir 5 ans en arrière sur ces lieux et sur ce sujet, en se disant qu'on ne perd pas toujours. C'est juste après les messages que voici, que vous avez laissés sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, c'est François de l'Isère. Avec le CNE et puis le CPE, le gouvernement a enfin trouvé réponse à un gros problème qui était posé au DRH en France. En effet, je travaille dans le transport, mais je connais bien aussi la logistique, et des grands groupes français, pour pas dire européens, avaient un gros problème, c'était la gestion de la précarité organisée ou durable, puisque maintenant on peut dire que c'est durable. En effet, avant on travaillait avec des intérimaires, les intérimaires au bout d'un certain temps on les envoyait un peu promener, mais on leur disait revenez dans 2 mois. Et puis après on a eu le CDD, alors le CDD chose merveilleuse, t'as des personnes qui sont en CDD pendant un certain nombre d'années, on fait 2 CDD, on interrompt les CDD, elles vont faire un peu d'intérim, on leur promet qu'on les reprend, donc elles reviennent, on les reprend en CDD. Je connais des gens qui sont depuis 5 ou 6 ans en CDD ou qui étaient en intérim avant et maintenant en CDD, mais enfin, qui sont pas prêts d'être embauchés tout en travaillant dans la même entreprise, ce qui est quand même le fin du fin. Maintenant avec le CNE, c'est encore plus facile. Le CPE, puis le nouveau contrat de travail à venir, ça sera encore mieux. En fait, on prendra une personne, au bout de 2 ans, on lui dira, au revoir, c'est bon, la période d'essai est finie, mais représentez-vous dans 1 mois. Et puis, ce qu'on fera, on la reprendra en essai pour 2 ans. Et puis, on peut faire ça in internam. Hein. Après, à partir du moment où en intérim, on arrive à garder quelqu'un 10 ans en intérim, je vois pas ce qui empêcherait de garder pendant 10 ans une personne en CNE, CPE ou n'importe quel autre contrat du même genre. C'est ce qu'on appelle de la précarité durable. Voilà. Allez, mais avec tout ça, on va essayer de rester optimiste. Hein. Allez, ciao, ciao. Et puis, merci bien pour les émissions, c'est génial.
C'est vraiment l'émission des aigris, mais bon, je laisse tout ça à le penser, parce qu'il n'y a jamais de messages de gens qui ne supportent pas le nombre de conneries qu'on peut entendre sur ces répondeurs. Enfin, voilà. Donc, c'est un spectacle, j'écoute, je rigole bien, parce qu'il y a vraiment des gens qui disent vraiment n'importe quoi, et qui ne se rendent pas compte de la portée de ce qu'ils peuvent raconter, quoi. Voilà. Donc, je zappe, parce qu'au bout d'un quart d'heure, j'en ai plein la tête d'entendre autant de sornettes, et c'est malheureux que je sois sur le service public, quand même, quoi. Voilà. Allez, salut.
C'est le repère de l'île de Groix. Comme tous les jeudis, tous les auditeurs ou visiteurs de l'île sont invités pour ce soir à un repas repère. Manger ensemble, ça aide à digérer certaines idées. Voilà, donc à ce soir, comme d'habitude, au café Le Bateau Ivre à partir de 20h30. À ce soir, merci.
Bonjour, je m'appelle Bob de Dordogne, ça fait plusieurs fois que j'appelle, mais j'ai entendu votre message hier soir, comme quoi vous aviez pris un peu de retard, par rapport au point repère. Alors voilà, moi je vous rappelle qu'on ouvre, enfin, on commence un point repère le 7 février, mardi, en Dordogne, à Aix-Ideuil. Et voilà, vous pouvez m'appeler à partir, enfin je suis chez moi à partir de 17h15. Voilà, comme ça, ça vous fait peut-être gagner un peu de temps. En tout cas, bon courage, et puis c'est plutôt un bon signe que vous soyez débordé. C'est bien. Bon, à très bientôt, au revoir.
Oui, bonjour, Daniel Mermet et son équipe, c'est Claude Lorenzo. Alors, petit rappel, le premier repère de là-bas, si j'y suis, à Autun, en Saône-et-Loire, aura lieu ce soir, jeudi 2 février, de 18h à 20h. Ce sera au café Le Point Bar, situé 27 rue Saint-Nicolas, à Autun, bien sûr. Donc, dans un premier temps, on apprendra à se connaître. Il y aura aussi de la musique, puisque la patronne Mina est musicienne. Et ensuite, nous parlerons de la directive de Bolkestein. Eh bien, ce soir, c'était Claude.
Ça va chauffer pour Bolkestein ce soir à Autun. Donc là, on part pour Arles, où, je le rappelle, un mémorial pour les Tziganes internés dans ce camp de l'oubli de Camargue a été inauguré aujourd'hui même. Et pour en savoir un peu plus, on a joint par téléphone l'adjoint au maire d'Arles, Nicolas Koukas.
Il y a eu l'inauguration d'un mémorial sur les lieux mêmes où fut érigé le camp de concentration de Gitans pendant la Seconde Guerre mondiale, à Salier exactement. Mmh. Et c'est en plein parc naturel régional de Camargue, à 15 kilomètres de la commune d'Arles. Et c'est, ça dépend bien sûr de la commune, et c'est dans un lieu un petit peu perdu. Et c'est d'ailleurs dans ce lieu qu'en 1940 et 42, le gouvernement de Vichy décida d'implanter le seul camp d'internement Tzigane en France.
Mais pourquoi aujourd'hui et pourquoi seulement aujourd'hui ?
Eh bien, 64 années après, c'est vrai que ça peut paraître long. Le camp a été complètement détruit en 54 après le tournage du film de Clouseau du Salaire de la Peur. Et d'ailleurs, la municipalité de l'époque n'a pas fait beaucoup de déco lorsque le camp a été rasé. Et puis, c'est tombé dans l'oubli jusqu'en 2001 lorsque Mathieu Pernot a mis à jour par ses rencontres avec beaucoup de gitans ce travail. Et lorsque nous avons été élus, et moi lorsque j'ai été élu en 2001 en tant qu'adjoint maire, j'ai souhaité qu'il puisse y avoir cette reconnaissance. Alors ça a pris du temps, c'est vrai. Ça a pris beaucoup d'énergie, mais il était indispensable que les Arlésiens, dans leur différence et dans leur ensemble, puissent enfin savoir et connaître cette histoire, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, peu d'Arlésiens étaient au courant de l'histoire de ce camp. Uh-huh. Et que pour nous, c'était capital que la mémoire collective puisse à un moment donné eh bien, se rendre compte que sur leur propre commune, des Arlésiens, eh bien, il y avait ce camp d'internement.
Ok. Alors, aujourd'hui, vous avez un colloque.
Voilà, en ce moment même, nous avons donc un colloque. Alors, on l'a organisé en salle d'honneur. C'est parce que on l'a voulu en salle d'honneur pour la simple et bonne raison que c'est dans ce même lieu qu'en 1942, des élus du conseil municipal de l'époque, qui avaient été mis en place par le régime de Vichy, certes, mais en tout cas, ses propres élus avaient décidé et avaient donné leur accord à l'implantation de ce camp. Et donc, pour moi, c'était important aujourd'hui de fermer la boucle et de se retrouver dans ce lieu, encore une fois, pour dire voilà, aujourd'hui, les élus de la République, mais aussi toute la ville, toute la population réunie dans ce lieu, eh bien aujourd'hui, on boucle un petit peu la boucle et on rappelle vraiment ce qui s'est passé avec des interventions, trois interventions. Alors à la fois quelqu'un du Bureau National de la Ligue des Droits de l'Homme qui donne une intervention générale sur la déportation de Tziganes et sur les raisons qui ont amené dans les années 36-38 plutôt, pardon, certaines lois particulièrement difficiles et dures, et notamment il va rappeler tout ce qui est carnet anthropométrique et toutes les mesures qui avaient été prises à cette époque-là. On a une intervention beaucoup plus historique d'un historien local qui s'appelle Georges Carlevent, qui lui va rentrer particulièrement dans les faits. Et en fait, on a souhaité donner l'intervention aussi d'une personne étrangère, c'est-à-dire c'est un Britannique qui a donné une vision qui n'est pas française sur ces sujets. Je pense que c'est toujours très pertinent d'avoir une vision extérieure, et notamment britannique, sur des sujets qui parfois dérangent encore un peu nos consciences. Il s'appelle Chris Persson, il est maître de conférences et professeur d'université à Bristol.
À quoi ressemble ce mémorial ?
Alors, c'est une œuvre très très contemporaine en fait, et cela représente, c'est censé donc représenter deux portes qui s'ouvrent bien sûr vers un monde meilleur, vers de la liberté, avec des silhouettes de personnes qui sont censées bien sûr représenter d'anciens internés.
Bon, bah écoutez, bravo !
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis à bientôt.
Ouais, à bientôt, au revoir.
Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Benoît Califano. Là-bas, si j'y suis, le camp des gitans.
Flight number 2, arriving from New York.
On était gardés comme des moutons avec des fusils et entourés de fils de barbelés. On ne pouvait pas sortir, ni dehors. On était rien que cerclés, là, comme un camp de concentration, d'ailleurs. Vous savez ce que c'est? On était malheureux. On était comme des chiens. On n'avait pas mangé. On était nus.
Pour manger, on n'avait rien du tout. On n'avait rien de tout. Alors, quand c'était l'heure de manger, on allait chacun avec notre petite gamelle. Une louche, des épinards sales et dégoûtants. Une fois, on a trouvé même un rat dedans.
Ce qu'on jetait à la poubelle, ils nous donnaient à manger.
Et il y avait des pichures de pommes de terre. Et nous autres, on allait prendre les pichures de pommes de terre. Et pour pas qu'on les prenne, il nous l'écrasait avec le pied.
Il écrasait les épluchures de pommes de terre.
Pour pas qu'on les prenne.
Pour pas que vous puissiez les manger.
Supplément d'âme ou supplément d'emmerdement, tel est le rôle assigné aux gitans. Aujourd'hui, balade dans un trou de mémoire, dans l'ombre de la mémoire, comme disent les gitans, dans un de ces angles morts de l'histoire, là où s'entasse ce que nous nous cachons à nous-mêmes. Lobotomie, collective amnésie, étonnante faculté d'occulter, de gommer, de nier, de négationner. Aujourd'hui, avec Benoît Califano, regard dans un trou de mémoire à Salier, Bouches-du-Rhône, sur la commune d'Arles, entre 1942 et 1944, fut construit un camp d'internement pour les gitans. Il y en a eu d'autres en France de ces camps d'internement pour nomades, dont celui de Montreuil-Bellay, près d'Angers, où nous sommes allés en 92. Ça remonte à pas mal de temps déjà. Et là, on voit des vestiges qui restent. Le seul camp, je crois, où figure une plaque commémorative, 16 janvier 1988, grâce à Jacques Sigaud et à Jean-Louis Boer, dit Poulouche, une plaque a été apposée parmi les vestiges de ce camp. 1000 tziganes passèrent là durant la Deuxième Guerre mondiale et même avant. 3000 en France furent internés pendant ces années noires. On dira, bof, c'est pas énorme. 3000 internés pour la seule raison qu'ils étaient nomades. C'est énorme, c'est considérable. Il ne s'agit pas évidemment de dénoncer autant d'années après les crimes des années noires. Mais on pourrait dire, avec certains psychologues, qu'il s'agit de rejouer pour déjouer. Rejouer pour déjouer. Revisiter ce passé avec les clés de l'historien, en l'occurrence l'historienne Henriette Asséau, avec les clés du photographe, de l'investigateur, celui qui a fait ce travail qu'on va découvrir. Et puis, surtout, avec les clés de la mémoire vivante de celles, ceux qui furent internés à cette époque et que nous avons retrouvés. Mémoire vivante, émouvante et mouvante aussi. Parce que, bien sûr, la mémoire bouge, n'est que reconstruction, n'est que présent. Mais c'est une question très délicate avec les Roms et autres Sintis et autres Calais. Ils ont une histoire, bien évidemment, comme tous les peuples, mais ils ne l'écrivent pas, mais ils ne la figurent pas. Peu d'images, peu de photos faites par les Roms eux-mêmes, peu d'histoires écrites par les Roms eux-mêmes. D'où la difficulté, pour les gadgets que nous sommes, de fixer, d'écrire l'histoire de ceux-là même qui ne l'ont pas écrite et qui ne sont pas des gens qui, a priori, se fixent. Il s'agit bien sûr de rendre visible, de faire exister, de faire apparaître les disparus et surtout de revenir à aujourd'hui, à l'exclusion qui frappe toujours les Roms, et pas seulement en Europe centrale ou orientale, mais ici même, revenir sur la vieille incompatibilité entre sédentaires et nomades qui persiste ici, revenir aussi sur ce contrôle des populations qui hante toujours le pouvoir, supplément d'âme ou supplément d'emmerdement, tel est le rôle assigné aux gitans.
On a pris le train de Châteauroux. De Châteauroux, on a été jusqu'à Rivesaltes. Où il y avait trop de monde, monsieur, par wagon, nous a emmenés comme des bêtes. Ben, elle était pas bien vue, puisqu'elle était battue, là, elle était malheureuse. On mangeait pas notre pain, on n'avait rien pour se couvrir. Tout le monde nous foutait la pierre, naturellement. Prisonniers, c'est prisonniers, hein. Ils sont pas gâtés, les prisonniers.
Dites-moi, Germaine, est-ce que vous êtes déjà retourné sur le lieu, vous, du camp?
À Salier une fois. Mais il y a très, très, très longtemps.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé sur place?
Eh bien, il y avait les baraques où il y avait toi, son moment. Et maintenant, se disant qu'ils ont tout ravaché.
Il n'y a plus rien.
Non. Ils ont tout enlevé. Ils ont planté des rizières.
Peut-être qu'ils ont voulu effacer aussi.
J'en sais rien. Ils ont fait ça qu'ils ont voulu.
Et qu'est-ce que ça vous a fait quand vous êtes retourné sur place?
Eh bien, ça m'a choqué parce qu'à ce moment-là, il me manquait mon frère. Il me manquait mon papa. Et ma petite sœur qui est morte là-bas. Voilà. Ça m'a laissé les drôles de souvenirs. Et je pense encore, je l'oublierai jamais. C'est des choses qu'on n'oublie jamais. Quelqu'un qui a été dans la souffrance, il n'oublie jamais la souffrance. Alors à Arles, ils sont venus nous recevoir avec des camions, ils nous ont amenés dans les camps. Là, on était seuls, c'était des petites chaumes. On était chaque famille dans les chaumes, de la paille, une chaume, un peu de ciment, 1,50 m de ciment, et le restant, c'était en paille.
Alors voilà, il n'y a rien, il n'y a plus rien à Salier dans les Bouches-du-Rhône, dans cette Camargue. Il faut vraiment être très malin pour vous trouver, découvrir, deviner l'emplacement de ce camp. Et pourtant, il a bel et bien existé entre 1942 et 1944. Des Tziganes ont été internés dans ce camp qui était un camp vitrine. Comme on va le découvrir. On va le découvrir avec Mathieu Pernaud, qui est photographe et qui, depuis des années, mène ce travail de mémoire, ce travail aussi d'identification, parce que, ben voilà, Germaine qu'on entend, Germaine Campos, il fallait la retrouver. Elle était gamine quand elle a séjourné dans ce camp. Et puis, il fallait ensuite comparer ce qu'on pouvait comparer, quelles traces il y avait pour un photographe, hein, quelles photos. Eh bien, il y avait les carnets anthropométriques. On va voir ce que c'était que ces carnets anthropométriques, et on va partir d'Arles avec Benoît Califano et Mathieu Pernaud pour la merveilleuse Camargue. Vous savez, la merveilleuse Camargue avec ce ciel toujours bleu, ses chevaux toujours blancs. Enfin, bon, un petit paradis.
On voit rien du tout aujourd'hui. Ouais. Il y a une brume intense qui est tombée sur la Camargue.
Donc aujourd'hui c'est intéressant parce qu'effectivement il y a un brouillard très épais, on ne voit rien, et la Camargue c'est aussi ça, quoi. Parce qu'en fait on a une image de la Camargue qui est très caricaturale, et l'administration de Vichy avait elle-même cette image, cette représentation caricaturale de la Camargue, c'est-à-dire un lieu ensoleillé, sympathique, où il fait bon y vivre. Où les flamants roses prospèrent tranquillement, les taureaux et les chevaux camargués aussi. Et en fait, la Camargue, c'est pas ça. La Camargue, il y fait très froid l'hiver. Lorsque le mistral y souffle, c'est très difficile de pouvoir y rester longtemps. Lorsqu'il pleut, la terre est gorgée d'eau et on peut absolument pas marcher dessus. L'été, il y fait très chaud et humide, ce qui fait qu'il y a énormément de moustiques. C'est impossible de rester plus de 10 minutes l'été à l'extérieur parce qu'on se fait tout de suite dévorer par les moustiques. Et ça a été vraiment une réalité pour les internés, et une réalité auquel manifestement l'administration n'avait pas du tout pensé, puisqu'elle croyait qu'en installant un camp en Camargue, elle rendrait heureuse cette population nomade, qu'elle pensait d'ailleurs originaire de Camargue. Et en fait, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Il y a un rapport d'administration qui, parmi toutes les raisons invoquées pour construire le camp en Camargue, dit de la Camargue que c'est le berceau de la race gitane. Et donc, puisqu'on veut faire un camp vitrine, un camp modèle, dans lequel on va essayer de faire croire qu'il est possible d'interner des gens tout en respectant le caractère particulier de leur coutume, eh bien on se dit que finalement la Camargue est peut-être l'endroit idéal. On construit un lieu, le village de Gitans, d'ailleurs il s'appelle le village de Gitans en Camargue, dans lequel donc on va interner cette population. Et on se dit même qu'en fait ça va donner à la Camargue un côté pittoresque supplémentaire. Et on pense même qu'il sera possible d'organiser des visites sur le site pour aller voir donc quand même ces drôles de personnes.
C'est des rizières ça à côté?
Oui, alors là en fait on est au moment où on inonde les rizières. Et le site du camp de Salier, une partie du site est d'ailleurs aussi une rizière maintenant. Donc on verra, une partie du site est complètement inondée. Il faut aller un petit peu plus loin alors pour voir vraiment la Camargue telle que les gens la rêvent, c'est-à-dire avec des flamants roses, des taureaux et
des chevaux blancs.
Et miracle, des fois aussi un gitan peut apparaître au coin d'un marais, mais enfin c'est... C'est quand même assez rare, hein, mais c'est vrai que les gens très souvent viennent ici pour vérifier cette image-là, quoi. La gitane au sein de Marie-de-la-Mer qui va un œillet derrière l'oreille se baigner, ou le gitan au coin du feu avec sa guitare qui chante de façon très romantique la misère de sa condition de malheureux gitan. Voilà, je parle.
On a fait gratter.
On a failli rater le camp de Salier. On a toutes les bonnes raisons de le rater parce qu'il n'y a rien qui indique sa présence.
On était 5 enfants, mon papa, ma maman, ma tante, mon oncle, mon grand-père et ma grand-mère. On n'avait que des petites baraques. Maman logeait ses 5 enfants. On était 5 enfants, 6, 7. 8, 9, 10, 11 en été. Et cette maison, c'était des petites baraques bien basses. Il y avait des croix en haut. Comme des petites baraques, comme je dirais, dans les champs qui mettent les animaux dedans.
Il y a eu près de 700 personnes qui sont passées dans ce camp.
Voilà, donc le camp a fonctionné pendant 2 ans, 42-44. Et il y a eu à peu près un peu plus de 700 personnes qui ont été internées dans ce camp. Il y a eu des gens qui sont décédés au camp de Salier, surtout pour des problèmes d'hygiène. C'est intéressant parce que là, on a retrouvé des rapports de médecins de l'administration de l'époque. Et en fait, ces gens décrivent les conditions d'hygiène et d'alimentation comme désastreuses au camp de Salier. Et d'ailleurs, ils s'étonnent, malgré ces conditions-là, de la santé relativement bonne des Tziganes, en disant que cette population doit quand même avoir un type d'immunité très particulière. Alors, est-ce que c'est sa tradition du voyage et le fait qu'ils sont habitués à vivre dans des conditions qui sont pas toujours faciles, mais les médecins sont très surpris de voir que dans ces conditions de vie, d'hygiène et d'alimentation complètement exécrables, finalement les gens sont encore en vie et pas en si mauvais état que ça. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il y a eu à peu près, je crois, 24 personnes qui sont décédées au camp de Salier. Ce camp, en fait, c'est vraiment la chronique d'un échec annoncé. C'est-à-dire qu'on pense déjà qu'il est possible d'interner une population nomade, de mettre des gens qui sont habitués au voyage derrière des barbelés, que finalement on se dit mais en fait non, ils sont très contents parce que ça y est, ils seront dans des maisons, donc c'est beaucoup mieux que la roulotte. Et déjà voilà, ce postulat de départ est assez représentatif de ce qu'a été le projet du camp de Salier, c'est-à-dire une série comme ça de déconvenues et d'échecs qui s'inscrit dans une histoire assez longue, hein, qui est celle du rapport entre l'administration française et les nomades. Et Salier, en fait, cristallise à un moment cette question-là de qu'est-ce qu'on fait de ces nomades? Comment peut-on faire en sorte qu'enfin ils arrêtent d'être des nomades? Mais en fait, le cancellier finalement s'inscrit dans la tradition de l'invention du carnet anthropométrique, donc qui est créé en 1912 par la République, et qui est en fait l'outil que se donne l'administration française pour ficher de façon systématique tous les tziganes, et surtout pour contrôler chacun de leurs déplacements. Et en fait, par ce carnet anthropométrique, on a préparé d'une certaine façon l'internement, et c'est vrai que derrière l'internement, il y a quand même le projet de sociabiliser les nomades tziganes,
c'est-à-dire les rééduquer, en fait.
Voilà, les rééduquer. Donc, lorsqu'on les interne, on leur demande de laisser leur roulotte, donc ils quittent leur roulotte, qu'ils ne retrouveront jamais d'ailleurs après l'internement. On les met dans des maisons et on essaye même, quand c'est possible, de retirer les enfants de leurs parents, de les confier soit à des orphelinats, soit à des institutions genre Secours National ou Secours Catholique, en se disant que c'est peut-être le meilleur moyen de resociabiliser ces enfants, c'est-à-dire de les éloigner de leurs parents et de leur enseigner les bonnes valeurs de la République. Ouais. Et la première de ces bonnes valeurs, en l'occurrence, par rapport à ces nomades, c'est peut-être la sédentarisation. Et en fait, c'est finalement une question dont on n'est toujours pas sorti, hein. Le rapport d'un État sédentaire, forcément d'une administration avec des gens qui se déplacent toujours, cette question elle est toujours posée, toujours d'actualité.
Toujours d'actualité. La question de contrôler les populations, les raisons de la décision de créer ce carnet anthropométrique en 1912 était que ils sont partout, hein, et ils sont partout, on les voit partout, ils sont là, et c'est vrai que si on se déplace, et bien on peut, pour les sédentaires, dans les fantasmes sédentaires, constituer une sorte d'ubiquité comme ça. Il faut absolument les bloquer, les arrêter, les fixer, et donc évidemment les contrôler. Mais si aujourd'hui le carnet anthropométrique a disparu en 1969 quand même, hein, c'est pas si ancien, eh bien il a été remplacé par le carnet de circulation qui doit être vérifié tous les 3 mois. Et puis il y a la fameuse loi Besson, qui oblige les communes de plus de 5000 habitants à aménager des aires d'accueil pour les gens du voyage. On sait que la loi est très très diversement appliquée, et qu'à chaque fois, on l'a vu pour les récentes municipales, ces histoires d'accueil des gens du voyage, hein, on euphémise tout ça, est un enjeu pour les élections. Il y a ceux qui les attirent, ceux qui les repoussent, etc. Bref, la question est loin d'être réglée. Alors, quand est-ce que ça devient aigu, ces histoires-là? Eh bien, c'est quand une société comme la nôtre a des problèmes sociaux, des problèmes économiques, est confronté à des problèmes identitaires, qu'elle identifie ou non d'ailleurs. On n'identifie pas toujours les problèmes identitaires, les questions identitaires, et à ce moment-là, eh bien, il y a bouc émissaire, il y a stigmatisation sur un groupe, et les tziganes sont tout prêts à ça, faits pour ça, pourrait-on dire. C'est le cas, on l'a vu en Roumanie, on l'a vu en Hongrie, on l'a vu en Slovaquie, mais c'est récurrent chez nous, ça stagne. C'est une possibilité permanente et d'autant plus dangereuse. Alors ce camp, donc, entre 42 et 44, n'est pas le premier des camps d'internement, des camps de concentration. Mais il y en a eu auparavant. Souvenez-vous de ceux qui ont accueilli, entre guillemets, les républicains espagnols, ou bien les communistes, lors du début des hostilités, les réfugiés anti-nazis, les juifs également dans le sud de la France, et puis donc ces populations dangereuses, ces indésirables que constituent ceux qu'on appelait les Romanichels. Des camps, il y en a eu avant la guerre. Celui-là a été construit en 1942. Pourquoi ? Eh bien, il fallait construire dans l'esprit des crânes d'œufs de Vichy. Il fallait construire quelque chose qui fasse bien. Pourquoi ? Parce que la presse américaine, une partie de l'opinion américaine, était sensibilisée au fait qu'on traite mal les gitans en France. Alors, Vichy voulait répondre de cette façon.
Je sais pas, il doit être là, dedans, là, en bas, là. Parce qu'il faut pas le salir.
Attendez. C'est pas vrai. Ça, c'est les gardiens qui nous gardaient au camp.
D'accord, c'est une photo des gardiens. Vous en souvenez de ces gardiens-là?
Oui. Il y a M. Pierre, il y a M. Robigny, il y a M.
Bartoussi,
il y avait Ferrazzi.
Là, à 7h du matin, il fallait être au prison pour voir s'il y en avait des évadés.
Ah, vous étiez au garde à vous le matin?
Le matin, oui. Le soir. Et ça, c'est les chambres où on habitait.
Comme
à. Et vous savez, il n'y avait pas de la place. On était 12,
on
13.
On n'avait pas même
d'eau. Pas d'eau? Ah, ça, c'est vous, en photo?
Oui, c'est moi.
Germaine Campos, Saint-Christophe-les-Salès. Oui. C'était il y a 2 ans, cette photo.
Oui.
Et alors, il y a des photos de vous, de l'époque aussi.
Il y a les photos de papa, de maman.
De toute la famille. C'est là.
Ah, vous êtes...
J'avais 7 ans.
Et les frères qui sont décédés suite du camp. Le papa suite du camp est décédé.
Alors, je vais vous expliquer comment c'était. Nous étions à Meiss, en résidence forcée, parce qu'il y avait un moment que c'était défendu de voyager. Alors, on s'est mis à Meiss. On était en caravane, des gitans espagnols, mais en caravane. Alors, justement, ils sont venus, comme on était en résidence forcée, la gendarmerie de Rochemaure, ils nous ont trompés. Ils sont venus, il a dit, il faut que vous partez parce qu'on a fait un village pour les nomades. Vous avez de belles maisons, vous avez des jardins, vous avez de tout. Mais nous, en croyant que c'était vrai, on est partis. Ils nous ont amenés au camp de Barcarès.
Dans un wagon, pas dans un train, dans un wagon de mettre les colis.
Et la caravane et la roulotte?
Ça a été abandonné, ça a été les Allemands, vous savez qui c'est qui les a pris, on ne peut pas savoir qui c'est.
Et vous étiez combien?
Eh bien, on était 13, il y avait le papa et les 10 enfants. Alors, quand on s'est trouvé là-dedans, qu'il y avait les fils bravelés, qu'on s'est vu là-dedans, on a été épamés. Alors, on a eu peur. On est resté là 3 mois.
On était gardés comme des moutons avec des fusils et entourés de fils de barbelés. On ne pouvait pas sortir, ni dehors. On était rien que cerclés là, comme un camp de concentration d'ailleurs. Vous savez ce que c'est? On était malheureux. On était comme des chiens. On n'avait pas à manger. On était nus.
Ils nous ont fait rentrer là. Des couvertures. Des couvertures. Quand un chien, il n'aurait pas couché de l'armée. Sale dégoûtant. Et bien, on couchait là. Alors, ils nous ont amenés à Rivesaltes. De Rivesaltes, ils ont pris mon pauvre papa. Ils ont pris mes 2 frères. Ils les ont menés à Salier. Et c'est eux ce qu'ils ont fait le camp.
C'est-à-dire que c'est votre père et vos frères qui ont construit le camp dans lequel on allait vous enfermer.
Et les autres gitans, les Angrois, les Romanos. Mais quand le camp il a été fait, on a été retrouvés, le papa et mes 2 frères. Et alors, quand on est arrivé au camp de Salier, on était contents parce qu'on était de jeunes familles. Ils nous ont fait travailler par force pour 50 grammes de pain. On commençait à travailler à 6 heures du matin, des fois 9 heures du soir, et on travaillait. Moi, je servais tous les gardiens. Je servais le colonel Pellet. Et alors, après, pour manger, on n'avait rien de tout. On n'avait rien de tout. Alors, quand c'était l'heure de manger, on allait chacun avec notre petite gamelle. Une louche, des épinards, ça le dégoûtant. Une fois, on a trouvé même un rat dedans.
Ce qu'on jetait à la poubelle, il nous donnait à manger. C'était impur. C'était affreux. C'était criminel ce qu'on nous avait fait.
Et il y avait des pichures de pommes de terre. Et nous autres, on allait prendre les pichures de pommes de terre. Et pour pas qu'on les prenne, ils nous l'écrasaient avec le pied.
Ils écrasaient les épluchures de pommes de terre?
Pour pas qu'on les prenne.
Pour pas que vous puissiez les manger.
Alors, ils nous faisaient voir le pain. On demandait, ils disaient non, c'est pas pour vous ce pain.
Je vous dis, on souffrait pire que les chiens. Les chiens, ils étaient mieux vus que nous. On n'avait rien, 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 absolument rien du tout. Et c'est pour ça que maintenant, on vieillit et on réfléchit et on ne dort pas la nuit de la misère qu'on a eu passée. Ils disent qu'en étranger, ils passent les souffrances, mais pas comme nous.
débarrer.
Il ne faudrait pas tomber dans un angélisme inverse, celui qui ferait des gitans, des figures d'opérette, des gens absolument merveilleux, des fils du vent avec des guitares, des roulottes. Il y a évidemment parmi les gitans et autres Roms et autres Sinti et autres Calais, évidemment, comme dans n'importe quelle communauté, des délinquants et des gens de toutes sortes. Mais reste qu'il n'y a que très peu de temps que l'Organisation des Nations Unies, la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies, a commencé à se pencher sur le sort des Roms de Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie, de Roumanie, etc. Et même ceux d'ici, eh oui, 500 000 Ziganes vivent en France, et on avance le chiffre pour l'Europe, pour la grande Europe, de 10 millions. Donc le peuple le plus européen avec lequel il va falloir, bien qu'on le veuille ou non, continuer de cohabiter, ce qui ne va pas sans certaines difficultés. Il y en a beaucoup, des difficultés. Il y a des difficultés historiques accumulées dans le disque dur de nos inconscients. Et il y a une chose qui est certaine, parmi les meilleures volontés qu'on peut rencontrer, là on en rencontre bien évidemment, il y a celle que nous devons leur apporter quelque chose, nous devons leur apporter l'écriture, nous devons. Mais qu'est-ce que nous attendons d'eux, à part de la musique, du folklore et des Saintes Maries de la Mer? Il y a peut-être autre chose que ces peuples, je dis bien ces peuples, peuvent nous apporter. Et c'est à nous de le découvrir. Par exemple, le détachement. Par exemple, le talent de ne pas accorder trop d'importance aux choses, à tout ce qui plombe, à tout ce qui vous assoit, à tout ce qui vous enfonce comme ça. C'est une idée. Elle est légère. Elle a l'air de rien. Elle est extrêmement subversive. Et elle fait partie des raisons de ce rejet. On continue cette balade, cette découverte autour d'un trou de mémoire.
Donc voilà ce qu'il en reste.
Il n'en reste rien.
Rien de rien.
Rien de rien. Il n'y a même pas une stèle ou une pierre ou un quelconque objet du souvenir qui... rappelle l'histoire du camp, bordure de route, il n'y a rien du tout. Et pour une raison simple, c'est aussi lorsque ils ont détruit les baraques d'internement, les agriculteurs qui ont récupéré le terrain se sont servis des ruines du camp comme remblai pour construire tous les chemins en fait qui sont autour du terrain. Donc en fait, ouais. À l'heure actuelle, on marche sur les ruines du camp. Il y aurait presque un travail d'archéologie qui serait intéressant à faire. Ce serait de gratter comme ça un peu sous le sol et de voir que il y a des traces. Il y a des traces de cette histoire. Tu vois, voilà. Tu vois. Ça, c'est des blocs, c'est des anciens blocs qui devaient être les blocs des baraques. Quoi. Et en fait, c'est là-dessus qu'on marche. Quoi. Et c'est ça qui a sous ce chemin. Quoi. Alors en fait, le camp tel qu'il a existé avait une capacité d'accueil de 350 internés. Alors en fait, il y a eu des fois beaucoup plus, le camp a été surpeuplé, mais il y avait un projet pour en faire quelque chose de beaucoup plus grand, de multiplier sa capacité d'accueil par 5 à peu près. Et en fait, ce projet n'a jamais été réalisé, au même titre que même le camp de Salier, tel qu'il avait été initialement prévu, dans sa première phase, n'a jamais été complètement fini. C'est-à-dire que l'eau n'est jamais arrivée à Salier, il n'y avait pas d'électricité non plus. Et donc, finalement, le projet de camp vitrine, de camp modèle, a été avorté dès le début parce que l'administration, très vite, s'est un petit peu désintéressée de la construction de ce camp, ce qui fait que le camp, dès le début, n'a jamais été le camp modèle qu'il aurait dû être. On n'a pas la trace d'un film qui aurait été tourné par l'administration de Vichy en utilisant ce décor à des fins de propagande. Mais 10 ans après... Un réalisateur vient pour faire des repérages. Il veut trouver un site qui puisse avoir vaguement l'apparence d'un village mexicain. En fait, c'est Clouseau qui a un repérage pour le salaire de la peur et qui, quelque part, concrétise ce souhait de l'administration d'utiliser le site du camp comme décor de film. Et ce qui est marrant, et en fait la boucle se boucle sur le camp de Salier, c'est qu'en fait, c'est même pas l'administration qui a détruit le site, c'est un cinéaste, Clouseau, qui, à l'issue du tournage, fait disparaître les traces du camp. Et donc c'est intéressant par rapport à Salier, parce qu'en fait, personne ne connaît l'histoire de ce camp, Mais paradoxalement, beaucoup de gens l'ont vu sans le savoir, en regardant Le Salaire de la Peur. Le café où Vanel rencontre Montand, c'est l'ancien bureau du directeur du camp. Et toutes les maisons qu'on voit au deuxième, troisième plan, ce sont les maisons camarguaises dans lesquelles étaient internés les Tziganes. Donc voilà.
Dans le camp de Sali, encore c'était petit, ça y allait, mais là-bas, le camp arrivait à l'aise. Oh là là, oh que c'était dur, oh qu'on avait faim.
Mémoire gitane autour de cette absence et cette disparition de ce camp modèle, de ce camp vitrine, de ce camp de propagande. Et on voit que comme pour Euro Disney, par exemple, on avait déjà eu l'idée de faire visiter le camp. Ça nous ramène au zoo humain, zoo, dont on a parlé récemment. Alors... le point de vue maintenant d'une historienne, Henriette Asseo, que vous connaissez, elle est déjà, on a déjà eu la chance qu'elle intervienne dans nos émissions justement sur ces sujets des Roms et des Tziganes, et elle fait un lien entre ce passé qui n'est pas un bibelot aboli et aujourd'hui.
On peut dire d'une certaine façon que l'internement des Tziganes en France a été le produit d'une continuité administrative. Celle-ci est signalée d'abord par une décision du 6 avril 1940, donc dans le cadre de la République finissante, avant la défaite de juin 40, qui signale donc aux autorités préfectorales la nécessité de procéder à l'assignation à résidence de nomades qui pourrait donner des informations sur le déplacement des troupes. Il y a là derrière tout un environnement intellectuel et mental qui fait du nomade l'agent de la subversion étrangère. Le simple fait d'être titulaire du carnet anthropométrique vous place en situation d'être suspect. Alors, le retournement de l'assignation à résidence en internement administratif, familial, définitif, sans libération, on peut dire effectivement que c'est sur un ordre allemand de la Feldkommandantur qu'il est effectué. Et ce qui frappe là, c'est le zèle qui est mis par les préfectures et les brigades mobiles et les brigades de gendarmerie, c'est-à-dire des autorités françaises, à repérer, à aller chercher et à interner ces familles. Et ça, il y a là, sans doute, quelque chose qui regarde un aspect franco-français de l'ambition d'internement des mobilités suspectes. Alors, ce carnet anthropométrique n'est pas une création des années 1930-1940. Il date de 1912. C'est le refus du nomadisme en général, c'est-à-dire de la mobilité professionnelle proprement hallucinante, y compris de la paysannerie traditionnelle française au XIXe siècle et encore dans l'entre-deux-guerres, qui nécessitait un contrôle administratif. Et évidemment, l'indexation particulière des Tziganes s'est opérée à l'intérieur d'un vaste ensemble de volontés de stabilisation des populations pauvres, des populations populaires. Ce phénomène se prolonge jusqu'à nos jours. Et on peut dire, d'une certaine façon, que les conditions administratives qui sont faites à tout type d'activité de forains, à tout type de circulation populaire à l'heure actuelle, sont le prolongement de cette volonté de contrôle des populations. Et ce qu'il y a de particulièrement évocateur dans la question des Tziganes, c'est que l'histoire et la mémoire sont conjointement conviées à être restaurées et installées dans la mémoire collective européenne. Ce n'est pas une affaire marginale de population suspendue à un mode de vie archaïque. C'est un enjeu profondément moderne parce que la part de l'internement familial de populations suspectes est totalement reproductible dans l'Europe actuelle. On le voit à l'heure actuelle avec l'attitude de certains pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi de l'Autriche et peut-être demain de l'Italie du Nord. Je pense, et j'espère me tromper, qu'on est à l'aube de la reconstitution de ce mouvement hygiéniste de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire de la volonté d'éradiquer la pauvreté suspecte en Europe de façon définitive.
De quelle manière ?
eh bien, on retrouvera toutes les catégories de l'entre-deux-guerres, aussi bien le tri biologique, le clivage dans l'aide sociale, le fait d'accuser les gens qui participent de l'aide sociale d'avoir trop d'enfants ou d'en avoir pas assez, la stigmatisation des familles pauvres, le fait qu'on reproche aux parents l'insuccès scolaire de leurs enfants, la sédentarisation et la création de camps de stationnement. Vous pouvez pas à la fois dire aux mêmes familles « Nous ne voulons pas que vous vous sédentarisez parce que nous ne voulons pas que vous soyez nos voisins » et en même temps leur dire « Nous ne voulons pas que vous circulez parce que nous ne voulons pas de nomadisme structurel en France ». L'ensemble de ces enjeux sont ouverts et c'est pour cela que le camp de Saliers est remonté à la mémoire. Le grand danger, c'est de croire que ce qui s'est passé dans le passé était lié à l'existence d'idéologies totalitaires et d'états totalitaires. Il a fallu, pour procéder à l'internement et à l'extermination aussi, de tant de populations européennes, un certain consensus collectif. Et c'est ce niveau du consensus collectif qu'il ne faudrait pas retrouver.
Mais 4 ans, c'est long. 4 ans, c'est long.
Et pour les misères qu'on a tracées, c'était très, très long. On n'en revient pas. D'ailleurs, on est traumatisé par la souffrance qu'on a eu passée.
Je peux pas réaliser.
Parce que le papa est mort de suite. Les frères, ils sont morts. La petite sœur de 9 ans, il est mort de suite de camp.
Alors, vous rendez compte, vous voulez que j'oublie ça? Jamais de la vie, je peux l'oublier. J'ai une angoisse dans le cœur quand je pense. Et c'est tout résisté. C'est tout résisté. On ne peut pas les oublier. Et dites qu'il y en a qui aiment les Allemands encore. Il vaut mieux être tué d'un coup de fusil qu'être enterré dans les camps, dans les fils, valvelés. C'est pas une vie. Alors là, dans ce camp, j'ai une petite sœur qui est décédée.
Quel âge elle avait?
Antoinette, il avait 9 ans, à l'hôpital d'Arles. Alors la petite, il a pris la mélangite, dans 24 heures, elle est morte.
Et vous, vous aviez quel âge?
Moi, là, j'avais 18 ans déjà.
Et vous, Isabelle, vous aviez quel âge?
Moi, j'avais 7 ans.
C'était petite.
Parce que vous avez vu la photo, comment j'étais dans le camp.
Alors, montrez-moi. Vous étiez très belle.
Oh, j'étais une miss. Ouais. On m'a pris en carte postale à Arles et on me l'a vendue.
Une carte postale pour les touristes?
Oui.
Avec vous dessus?
Avec moi dessus.
C'était la gitane. Vous étiez très très belle. Hein.
Et oui. Et sans maquillage, hein, naturel. Vous ne savez pas qu'il y avait des gens qui étaient salauds, oui? Quand ils voyaient une fille que ça lui plaisait. Mais chez moi, jamais. Jamais. Et des fois, ils étaient méchants et rebelles pour ça. Et voilà, l'histoire est finie.
Voilà, aujourd'hui à Arles, donc, inauguration d'un mémorial pour les 10 gars internés dans ce camp. Merci à tous. C'était un reportage de Benoît Califano qui datait de 2001. Merci au photographe Mathieu Pernaud, à Henriette Asseo. Merci aussi à Germaine, Isabelle et Elone et Léonore Campos. Merci à Nicolas Koukas, adjoint au maire d'Arles. À lire le bouquin de Mathieu Pernaud, Un camp pour les bohémiens aux éditions Actes Sud. Et d'Henriette Asseo, Les Tziganes, une destinée européenne aux éditions La Découverte Gallimard. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas si j'y suis. C'est Jean-Philippe Jeanne et Alain Arnstein qui étaient à la technique aujourd'hui. Réalisation Yann Chouquet, Koyen Guyana, assisté de Pascal Pascariello et Christophe Humbert pour le répondeur dont le numéro est 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 17h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Bruno Duvic. Salut!